bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington, sur VOA Afrique, avec Abdourahmane Dia.
Bonsoir et bienvenue à tous. Bienvenue dans Focus Sahel, l'émission de VOA Afrique qui vous offre une perspective unique sur la région. Au sommaire de cette émission ce soir, le cinquième président du Sénégal a pris fonction ce mardi. Bassirou Diomaye Faye, le président le plus jeune de l'histoire du pays, promet un changement systémique et réaffirme la vision souverainiste et panafricaniste de sa formation politique. Que signifie l'arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye pour le Sénégal et la région? Nous le verrons dans un instant. En Mauritanie, une proposition de réforme des partis politiques suscite la polémique. Des leaders politiques soupçonnent le pouvoir de chercher à limiter le nombre de formations politiques. Pour le fait marquant de la semaine, nous irons à Bamako. Notre confrère Sekou Tangara d'Africable sera en ligne pour nous éclairer sur la grogne de partis politiques qui réclament la tenue d'élections. Et on terminera avec la note positive de cette émission, avec la réouverture d'un important axe routier à Bandiagara. C'est dans le centre malien. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage de découverte et d'information dans le Sahel. Cette émission est diffusée sur nos fréquences FM, sur nos stations partenaires, sur voafrique.com et en direct sur la page Facebook de VOA Afrique. Au Sénégal, l'élection de Bassirou Diomaye Faye, qui a prêté serment ce mardi, est porteuse de grands espoirs. La jeunesse attend beaucoup des nouvelles autorités, alors que sur le plan régional, le nouveau président sénégalais devra faire face à l'épineux dossier CDAO-AES, Alliance des États du Sahel. La correspondance à Dakar de Wahani Johnson Sambou.
Ils se sont rencontrés en prison il y a un mois, arrêtés en marge des manifestations contre le report de la présidentielle. Les voici à nouveau réunis à discuter projets. Ces jeunes qui rêvent d'un Sénégal nouveau attendent beaucoup du nouveau régime. Bamba Dia et Moussa Sarr sont respectivement rentrés d'Allemagne et des États-Unis pour investir au Sénégal. Nous avons les capacités, l'esprit, l'énergie et surtout la jeunesse pour y parvenir. Malheureusement, certains de nos dirigeants ne sont souvent là que pour leurs intérêts personnels. Mais c'est parce que je crois à ce changement que je suis rentré au pays.
L'attente, pour moi, non. Ouais, il faut se mettre au travail et puis solutionner. Maintenant, les solutions ne vont pas tomber tout de suite, certes. Mais quand même, je pense que mettre en place des mécanismes pour pouvoir un peu occuper tout le monde, cela est bien possible.
Le président Bassirou Diomaye Faye mesure parfaitement l'ampleur des attentes et elles ne sont pas que nationales. Le nouveau président sénégalais devra en effet gérer un agenda régional très chargé et difficile dans un contexte de tension au sein de l'espace CDAO.
Je lance un appel à nos frères et sœurs africains pour qu'ensemble nous consolidions les acquis obtenus dans les processus de construction de l'intégration de la CDAO, tout en corrigeant les faiblesses et en changeant certaines méthodes, stratégies et priorités politiques.
Un discours qui pourrait ne pas faire l'unanimité du côté de l'Alliance des États du Sahel, eu égard au discours anti-français qui a longtemps été la philosophie du PASTE, formation du président Bassirou Diomaye Faye. Mais Amadou Diallo, spécialiste des relations internationales, demande de la patience.
Lorsque on arrive au pouvoir et lorsque on est hors du pouvoir, ça fait deux choses. Le président Bassirou Diomaye Faye, lors de ses campagnes, a appelé même à revoir même la monnaie, le franc CFA, a appelé à ce que même la CDAO puisse être refondée. Parmi les premiers présidents qui ont félicité Bassirou Diomaye Faye, c'est le président du Niger, qui est membre de l'AES. Donc cela veut dire que, attendant, il est trop tôt de vraiment juger, attendant à ce qu'il puisse prendre, qu'il puisse prêter serment, qu'il puisse commencer à bien fonctionner, pour pouvoir juger Bassirou Diomaye Faye.
L'épineux dossier de la CEDEAO sera sans doute l'un des plus grands défis du président Bassirou Diomaye Faye. Parviendra-t-il à recoller les fissures? C'est encore loin d'être gagné. Wahani Johnson Sambou pour VOA Afrique, Dakar.
Voilà, merci beaucoup Wahani. Et nous avons justement Wahani Johnson Sambou en ligne de Dakar. Wahani, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane.
Alors, vous avez assisté à la prestation de Bassirou Diomaye Faye ce matin comme cinquième président du Sénégal. Décrivez-nous un peu l'ambiance.
Alors, bonsoir aux auditeurs. L'ambiance était au rendez-vous. Il y avait eu beaucoup de monde au Centre international de conférence de Djamniadio où s'est tenue la cérémonie de passation de service. Beaucoup d'émotions et surtout un sentiment de délivrance pour la plupart des partisans de Bassirou Diomaye Faye, les nombreux partisans de Bassirou Diomaye Faye qui étaient là. Et puis, on a pu voir beaucoup de chefs d'État de la sous-région, notamment Nana Akufo, du Ghana, le président de la Guinée-Bissau, celui de la Guinée et puis même celui du Mali. Comme vous le savez, les rapports entre le Sénégal et le Mali, surtout les États de l'Alliance du Sahel, ne sont pas au beau fixe comme depuis quelque temps avec le président Macky Sall. Donc, une grande émotion et puis beaucoup, beaucoup d'ambiance lors de cette cérémonie que le chef de l'État a voulu, malgré tout, très sobre.
Voilà, la délégation malienne conduite donc par le patron du CNT malien, Malik Diaw. Alors, un mot sur justement ces personnalités étrangères qui étaient présentes à cette cérémonie. Et qu'est-ce que cela inspire, disons, aux observateurs?
Alors, pour les observateurs, cela inspire peut-être un nouveau changement, un nouveau cap dans les relations entre le Sénégal et les autres pays. Mais surtout, tout le monde passe en ce qui se passe avec la CEDEAO, avec le retrait des trois États du Sahel, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Lors de son premier discours, le président Bassirou Diomaye Faye les avait appelés un peu à revoir leur position. Et aujourd'hui encore, il a réitéré sa volonté de travailler avec ces États. Donc le fait de voir ces présidents, et puis il faut surtout rappeler que, par exemple, les dirigeants maliens et les dirigeants, le dirigeant de la Guinée ont été très, très acclamés par la foule qui était dans la salle. Ce qui veut dire que, par rapport au discours souverainiste, qui est celui également du camp de Bassirou Diomaye Faye, mais également de ces États du Sahel et de la Guinée, ça veut forcément augurer quelque chose de bien dans les relations entre les États. En tout cas, ça suscite beaucoup d'espoir. L'élection de Bassirou Diomaye Faye, autant pour ses États que pour la jeunesse sénégalaise.
Voilà, Wahani Johnson Sambou, correspondant de VOA Afrique à Dakar, merci beaucoup. Et nous allons donc poursuivre la discussion sur le même thème avec Ibrahima Kane, analyste politique sur place. Ibrahima Kane, bonsoir.
Bonsoir, Abdourahmane.
Alors, le président Bassirou Diomaye Faye arrive à la tête du Sénégal justement dans un contexte de vives contradictions au sein du bloc régional. Que peut-on retenir de son discours d'aujourd'hui qui pourrait indiquer la direction qu'il compte prendre sur le plan régional?
Je pense, comme l'a dit tout à l'heure votre correspondant à Dakar, Bassirou Diomaye, non seulement lundi dernier, mais aujourd'hui, a encore réitéré cette volonté du Sénégal d'œuvrer pour la réalisation de l'intégration régionale d'abord et continentale. Et il a demandé à ses pairs de faire tout pour que cette intégration réussisse. Je pense que là, il place la barre un peu haut. Et pour qui connaît le Sénégal, pour qui sait que l'un des atouts du Sénégal sur le plan international est sa diplomatie, que Bassirou va tout mettre en œuvre pour que la diplomatie sénégalaise joue le rôle qui est attendu d'elle, pour que vraiment les trois pays des États de l'AES puissent revenir à la maison. C'est même intéressant de savoir qu'aujourd'hui, aussi bien les États membres de l'AES que les dirigeants de la CEDEAO, en particulier le président en exercice, ils étaient tous dans la salle. Et je suis persuadé qu'il y a eu déjà des discussions qui ont eu lieu. Avant, il n'y a jamais eu ce genre d'opportunité pour converser, en tout cas, faire les premiers pas les uns en direction des autres pour voir comment on peut recoller les morceaux. Donc, cette prestation de serment est déjà l'occasion pour Bassirou, en permettant que les gens se rencontrent, est déjà un premier, comment dirais-je encore, un premier acte posé allant dans la direction de du rôle que le Sénégal devra nécessairement jouer pour recoller les morceaux au niveau de la CEDEAO.
Justement, vous dites qu'il a mis la barre très haut. Comment est-ce qu'il peut s'y prendre pour essayer de recoller les morceaux entre la CEDEAO et ces trois pays de l'AES qui ont décidé de quitter l'organisation? C'est quand même très ambitieux, même si on connaît sa proximité justement avec les autorités maliennes. On connaît plutôt la proximité entre Ousmane Sonko, son mentor, et les autorités maliennes.
Alors, il y a d'abord cette proximité avec le Mali et avec le Burkina Faso et dans une moindre mesure avec le Niger. Mais il y a aussi le fait que au cœur de ces deux discours, il a insisté sur la nécessité de revoir le fonctionnement de la CEDEAO. Et si vous écoutez le discours des dirigeants de l'AES, la critique fondamentale qu'ils ont adressée à la CEDEAO, c'était son mode de fonctionnement. Alors si le mode de fonctionnement est le talon d'Achille du système, peut-être que le Sénégal pourra, en mettant en exergue la nécessité d'une réforme, prendre le leadership dans la quête d'une réforme de la CEDEAO qui pourrait ramener les trois États dans la maison mère. Je pense que ça, c'est déjà un acquis. Le deuxième élément qui me paraît important dans la démarche aussi du Sénégal, c'est que le Sénégal revendique une nouvelle manière d'agir de la CEDEAO. Cet aspect souverainiste, cet aspect de revoir nos relations avec l'extérieur d'une certaine manière. Et ça, je ne vois pas comment les autres États vont s'y opposer. Donc c'est vraiment enfoncer une porte ouverte que de parler de nécessité de renforcer la souveraineté de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est l'organisme régional qui reçoit le moins de subsides des partenaires étrangers.
D'accord.
Alors, seulement 5% du budget de la CEDEAO qui est fourni par les États extérieurs. Donc vous avez tous les éléments, tous les ingrédients en effet, pour vraiment engager un dialogue sérieux, un dialogue utile pour faire en sorte que la CEDEAO avance.
Alors, Ibrahim Kane, on parle beaucoup des pays de l'AES, mais on n'entend pas beaucoup parler de la CEDEAO, plutôt de Alassane Ouattara et de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est un peu la tête de pont de l'UMOA et dont le président Alassane Ouattara a été un proche allié de Macky Sall. Comment est-ce qu'il y a quelque chose à interpréter là-dessus ou bien...
Mais je pense qu'il y a une sorte de bascule actuellement avec l'arrivée de ces jeunes au pouvoir ici au Sénégal. Je pense qu'il y a nécessairement une nouvelle manière de voir à l'intérieur de l'UMOA et à l'intérieur de la CEDEAO. Parce que ces jeunes-là, ils mettent déjà l'accent sur la nécessité d'aller rapidement vers la monnaie communautaire, ce qui n'est pas l'agenda de Ouattara. Le CFA, même si on devait changer le nom en écho. Et en plus aussi, Ouattara, c'est vraiment aujourd'hui le symbole du type de relation avec l'Occident, avec la France particulièrement, que les jeunes-là détestent. Et donc, Ouattara commence à être isolé au niveau aussi bien de la CEDEAO que de l'UMOA. Il n'est pas venu, il s'est fait représenter par son vice-président, mais cela aussi est une indication parce que à toutes les prestations de serment de Macky Sall, Ouattara était présent.
D'accord. Alors, rapidement, avant de vous laisser partir, un mot sur la Mauritanie, avec qui le Sénégal va exploiter un important gisement de gaz à la frontière maritime commune entre les deux pays. Comment voyez-vous l'avenir de ces relations Sénégal-Mauritanie?
Mais c'est seulement l'avenir des relations entre le Sénégal et la Mauritanie, c'est l'avenir des relations entre le Sénégal et ses voisins. Parce que ce que Diomaye Faye veut mettre en œuvre, il lui faut nécessairement la paix avec ses voisins. Nécessairement. Par le passé, on a jamais. On n'a pas eu de bonnes relations avec la Guinée de Alpha Condé, et avec celui-là, ça commence à changer. Le seul pays de la région avec lequel on a toujours eu de bonnes relations, c'était le Mali. Donc le Sénégal doit nécessairement changer de logiciel quant à ses relations avec ses voisins. C'est en changeant ce logiciel-là que le Sénégal pourra mener à bien tout l'agenda que Diomaye veut déployer au niveau du pays pour faire avancer la situation économique du pays.
Voilà, merci beaucoup Ibrahim Kane, analyste politique basé à Dakar. Alors juste deux commentaires Facebook avant de marquer une pause. Bounenem Saïd nous dit, il ne faut pas déjà commencer à endiguer dans un paradigme médiatique le rôle du jeune président sénégalais qui, je pense, a son propre agenda présidentiel dûment élaboré. Et puis Alphonse Mbouaki nous dit que le Sénégal est un pays en bonne santé démocratique. Il connaît des soubresauts ou des tentatives de politiciens cherchant à nuire à cette démocratie, mais il rencontre des institutions judiciaires et des hommes politiques et des populations qui ont intériorisé le jeu ou la pratique démocratique. Merci de rester sur VOA Afrique. On revient tout de suite.
De la Mauritanie au Tchad,
du Mali au Burkina Faso,
du Niger au Nigeria,
Focus Sahel aborde les questions urgentes qui affectent la région.
La sécurité, la liberté d'expression,
l'éducation,
les questions sociales,
l'esprit d'entreprise.
Focus Sahel vous invite au cœur de la conversation dans cette importante région d'Afrique.
Focus Sahel, en direct de Washington, sur VOA Afrique.
Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Alors, y a-t-il trop de partis politiques en Mauritanie? Alors, en tout cas, c'est une proposition de réforme des partis politiques qui divise pouvoir et opposition. Certains évoquent le besoin de rationaliser les partis politiques, tandis que d'autres craignent que cette réforme ne serve à formaliser le refus de reconnaissance des partis non favorables au régime en place. 20 partis politiques, il faut le dire, sont reconnus en Mauritanie à ce jour. Suivons ce reportage à Nouakchott de Mohamed Diop.
La concertation sur le développement de la gouvernance se concentrera à l'heure actuelle sur les réformes liées au système des partis.
Les journées de concertation préélectorale et sur la gouvernance politique en Mauritanie visaient à parvenir à un consensus national. Consensus finalement raté en raison d'un différend sur une proposition de réforme des partis politiques. Les réformistes soutiennent que les partis doivent être plus représentatifs. Mohamed Ahmed Mohamed Lemine, ministre mauritanien de l'Intérieur, explique le bien fondé de la réforme.
La réforme vise à faire en sorte que les partis politiques forment un cadre unitaire et représentent toutes les communautés nationales en évitant les considérations d'ordre égoïste.
L'opposition regroupée au sein du front des partis spoliés, comprenant pour la plupart des partis non agréés, a claqué la porte des concertations, accusant le pouvoir de chercher à légitimer son refus de reconnaître des partis répondant aux normes requises. Youssef Mohamed Issa dirige le parti RDP.
Ce qu'il cherche, c'est de stagner une loi existante qui ne répond pas aux intérêts de la classe sociale gouvernante et instaurer une loi sur mesure.
L'analyste politique Cheriou Bailiat dit comprendre l'attitude de l'opposition.
Il faut signaler que les principales recommandations des concertations étaient de réduire le nombre des partis politiques. Continuer donc les discussions et valider ces conclusions serait tout simplement synonyme de suicide politique pour ces partis.
Le ministre de l'Intérieur a pourtant donné des garanties.
Nous ne sommes pas là pour entraver l'action politique ou empêcher la reconnaissance de partis politiques.
Mais l'opposition reste méfiante.
Tant que le ministère de tutelle n'accepte pas de remettre aux ayants droit le récépissé en tant que parti légalement constitué, nous ne pouvons pas avancer.
Cependant, l'analyste Cherioub Eliat estime qu'une réforme est inévitable.
Je m'inquiète lorsque le nombre de partis dépasse une centaine dans un pays avec une population de moins de 4 millions d'habitants.
Près de 100 demandes d'agrément de partis politiques sont sur la table du ministre de l'Intérieur, en plus des 20 partis déjà reconnus. Mohamed Diop pour VOA Afrique, Nouakchott.
Voilà, à présent, le fait marquant de la semaine, et c'est pour parler donc de ces dizaines de partis politiques et organisations au Mali qui réclament la tenue de l'élection présidentielle dans les plus brefs délais, estimant que la transition a pris fin le 26 mars dernier. Pour parler de cette actualité, nous avons en ligne de Bamako Sekou Tangara, directeur de notre chaîne partenaire Africable. Bonsoir Sekou.
Bonsoir Abdourahmane.
Alors, ces partis et organisations estiment que depuis le 26 mars, la transition a pris fin. Sur quoi se basent ces organisations et ces partis, pour le dire?
Oui, Abdourahmane, il se base sur un décret signé par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, un décret qui fixe la durée de la transition à 24 mois pour compter du 26 mars 2022 pour ce regroupement de partis politiques, de mouvements et associations. L'échéance donc fixée pour la transition au Mali a pris fin le 26 mars dernier, raison pour laquelle il demande aux autorités de s'éclipser et de laisser la place à une autre transition civile et beaucoup plus inclusive.
Et que disent les autorités?
Pour l'instant, les autorités n'ont pas réagi officiellement, mais il y a certains de leurs soutiens qui ont fait des sorties. La dernière en date est celle de la membre du CNT, Madame Aminata Sangaré. Le CNT fait office de parlement. Pour cette dame, il n'y a ni vide juridique ni vide institutionnel. Le décret invoqué par le regroupement de partis politiques n'est qu'un décret, alors que la charte de la transition, qui fait office de loi fondamentale et de constitution, donne 6 mois à 5 ans aux autorités pour mener des réformes. Donc, pour elle, le décret n'est pas supérieur à la charte de la transition et à la constitution. Et puis Abdourahmane, elle va même loin. Elle va même loin en invoquant la nouvelle constitution qui a été promulguée en juillet dernier. La nouvelle constitution, dans ses articles 189 et 190, dit que la transition prendra fin avec l'élection du nouveau président de la République, la prestation de serment et la passation de charge au nouveau président de la République du Mali.
Et il y a aussi la question sécuritaire. Est-ce qu'elle est mise en avant pour expliquer un peu la non-tenue de ces élections?
Quand on essaie de faire un micro-trottoir au Mali, les avis sont partagés. Il y a une première frange de Maliens qui pensent qu'il faut stabiliser, qu'il faut sécuriser, qu'il faut même mettre entre parenthèses la démocratie. Mais il y a une seconde frange qui pense que cela ne tient pas, que les autorités font du dilatoire, parce que la question Kidal qui était abordée pour des raisons sécuritaires, pour ces Maliens-là, la question sécuritaire ne tient plus, parce que le pouvoir est parvenu à organiser un référendum pendant que Kidal était aux mains des terroristes. Et maintenant que Kidal est dans le giron malien, par exemple, ces Maliens ne comprennent pas la non-tenue de l'élection. Et ils vont même loin en disant que les autorités ont récupéré le fichier électoral qui était pris en otage par une société française et qu'il n'y a aucune raison pour que la présidentielle ne se tienne pas.
Alors,
donc les avis sont partagés.
Oui, tout à fait. Alors, en quelques secondes, vous pensez que les élections peuvent toujours se tenir cette année ?
Quand on regarde la météorologie électorale au Mali, la saison des pluies, c'est dans 2 à 3 mois. Et je vois très mal, d'un point de vue logistique, la présidentielle se tenir pendant cette saison pluvieuse-là. Peut-être un avis d'observateur, peut-être en fin trimestre, en fin de trimestre, octobre, novembre, décembre. Mais peut-être les autorités elles-mêmes ont des informations que nous n'avons pas. Sinon, les raisons sécuritaires, logistiques, étant donné qu'un référendum a été organisé sur l'ensemble du territoire. Et voilà, il y a une certaine logique qui comprendrait très mal la non-tenue de cette élection. Voilà.
Merci beaucoup, Sekou Tangara, depuis Bamako. Et restons au Mali pour la note positive de cette édition, et c'est pour parler de la réouverture du trafic routier sur l'autoroute 15 dans la région de Bandiagara, c'est dans le centre malien. Après des mois d'interruption à cause d'un blocus des groupes armés, le trafic a repris sur les axes Bandiagara, Bankas et Koro. Cette reprise de la circulation commence déjà à avoir un impact positif sur les marchés dans ces localités. Un soulagement pour les populations en cette période de Ramadan. De Koro, la correspondance de Tidjani Ouedraogo.
Situé au cœur de la ville, le marché de Koro est le plus grand de la commune. Il est 10h du matin, les vendeuses de légumes s'installent avant l'arrivée des forêts. Aïssata Zormé se dit heureuse de pouvoir reprendre ses activités.
Je suis venue vendre des légumes. Grâce à la réouverture de la route, nous pouvons avoir les légumes facilement.
La reprise du trafic routier sur la route nationale 15 a permis de ravitailler les marchés en produits de première nécessité. En ces mois de Ramadan, les produits comme le sucre, l'huile ou le riz refont leur apparition sur les marchés. Certains consommateurs, à l'image de ceux au Togo, constatent néanmoins une hausse des prix.
J'ai payé un sac de 25 kilos de sucre à 16 000 francs CFA. Les produits sont disponibles, mais ils sont chers. Nous demandons la baisse des prix.
Il y a de cela quelques mois, des hommes non identifiés ont saboté les ponts sur l'axe Bandiagara-Bankas, affectant du coup le trafic sur la RN15. Une situation qui a eu un impact sur le bout des denrées dans les cercles de Koro et Bankas, comme l'explique ce commerçant.
Nous avions souffert pendant l'interruption du trafic routier. Le transport de nos marchandises a doublé, alors que nos marchandises quittent Bamako pour venir.
La réouverture du trafic sur le tronçon est un soulagement pour les populations, surtout en ce mois de Ramadan. Hussein Berou ne cache pas sa satisfaction.
Avant cette ouverture, la population a beaucoup souffert. Donc, le manque de produits de première nécessité étaient visibles sur le marché. Actuellement, Dieu merci, actuellement, donc, il y a, c'est vrai, il y a la charité, mais en tout cas, donc, visiblement, tous les produits sont, en tout cas, dans les marchés, tels que le riz, l'huile, lait, donc, les boissons.
Principale voie de ravitaillement des localités du centre. La route nationale 15 est essentielle à l'économie de la région. Tidjani Ouedraogo pour VOA Afrique, Koro.
Voilà, c'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci à notre public et à vous donc qui nous avez accompagnés. Merci à l'équipe technique composée de Michel Joseph et Trésor Matondo. À ce micro, Abdourahman Dia. À très bientôt sur les ondes et sur les antennes de VOA Afrique. Au revoir.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous. Bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui.